Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Plus d'un million de Françaises et de Français ont manifesté la semaine dernière pour dire leur opposition au projet de réforme des retraites. Joël Meskens nous explique en quoi il consiste et pourquoi il crispe. Mais d'abord, l'armée ukrainienne va recevoir les chars lourds qu'elle demande depuis plusieurs semaines. On va voir ce que ça peut changer dans le conflit. Nous sommes le jeudi 26 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Hier, le chancelier allemand Olaf Scholz donnait son accord pour livrer à l'armée ukrainienne des chars lourds. 14 Léopard 2 vont être envoyés. La Russie réagit et dénonce une décision extrêmement dangereuse. De son côté, l'Ukraine félicite ce premier pas. Mais qu'est-ce que ces chars européens vont changer pour les Ukrainiens? L'armée est-elle préparée à les recevoir? Camille Petout a posé ses questions à Frédéric Delepierre du service Société.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Camille.
Olaf Scholz a donné son accord hier pour livrer 14 chars Léopard à l'Ukraine. Pourquoi est-ce que ce sujet des chars est si important? On aimerait comprendre. Frédéric, vous avez interrogé le colonel Tom Simons. Il vous a expliqué les enjeux technico-pratiques de ces livraisons de chars. Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'armée ukrainienne de recevoir ces fameux chars?
Alors selon le colonel, envoyer des chars en Ukraine, on le fait depuis le début du conflit. Il estime à plus ou moins 450 le nombre de chars que les alliés occidentaux ont déjà envoyé en Ukraine, mais ce sont des chars légers qui font entre 30 et 40 tonnes chacun. Ici, il est question de chars lourds qui pèsent tous plus de 60 tonnes, ce qui représente 50% de poids en plus. Alors ce poids, pourquoi est-ce qu'il est important? Tout simplement parce que il se traduit par de l'équipement. Ces chars sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus sophistiqués. Ils embarquent une technologie de pointe que les autres chars n'embarquent pas. Ils ont également un calibre bien plus important qui permet d'envoyer donc des projectiles bien plus lourds et plus destructeurs. Leur blindage est plus important aussi. Ils permettent aussi ces chars d'être beaucoup plus stables. Ils ont des canons beaucoup plus stables, ce qui fait que lorsque ces chars se retrouvent dans des endroits escarpés, le char peut se déplacer, peut continuer à bouger, mais le canon reste stable, ce qui permet de tirer et d'être très précis. Et ça permet aussi, en étant en mouvement, de ne pas être visé par les tirs de l'adversaire.
14, ça paraît être un nombre plutôt moindre.
Il s'agit de chars allemands qui vont en envoyer 14, mais les Français, les Britanniques, enfin les Alliés en général vont aussi en envoyer. Ici, il est question des Léopards, mais on va envoyer des Challenger, on va envoyer d'autres types de chars. Donc, ça n'est qu'une première partie. Une première partie de l'envoi. D'ailleurs, les Ukrainiens ont bien dit, on en espère beaucoup plus.
Ces chars sont utilisés pour attaquer ou c'est plutôt un effet de dissuasion?
C'est pour attaquer, clairement. Il est question ici donc de pouvoir lutter contre la concentration des forces russes. Il faut savoir qu'à un moment donné, avant la retraite des Ukrainiens de Kherson, le front s'est allé sur 900 km. Depuis Kherson, le front est concentré sur 5 à 600 km, ce qui fait que les forces russes sont concentrées. Elles sont plus nombreuses qu'avant, puisque Poutine a réquisitionné 300 000 militaires supplémentaires, ce qui fait qu'il y a une grosse concentration de ces forces au même endroit. Ces forces qui ont aussi creusé des tranchées, ce qui est assez nouveau. Donc le combat se fait aussi en profondeur. Et donc les Ukrainiens réclame à corps et à cri ces chars parce qu'ils vont permettre de vraiment apporter une puissance de feu plus concentrée. Ils vont permettre de franchir ces tranchées et de reprendre la main sur le combat.
Est-ce que l'armée ukrainienne est prête à les recevoir? Est-ce que les soldats sont formés à utiliser de telles armes lourdes?
Alors d'après le colonel Simons, oui, ces gens ont l'habitude de travailler sur des chars, même si ici ils vont comporter une nouvelle technologie, ils seront plus lourds, mais visiblement ce ne sera pas très compliqué. Pour le colonel, ce qui sera plus compliqué, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire on ne va pas envoyer un char seul au front. Ces chars vont travailler par quatre. Les militaires ukrainiens vont devoir apprendre à travailler à quatre, également avec des fantassins qui vont devoir protéger. Et donc ça, ce sera peut-être l'un des défis principaux. Ils vont devoir s'initier aux nouvelles technologies embarquées dans ces chars. Mais d'après le colonel, ça ne devrait pas réellement poser de problème. Le problème sera surtout, selon lui, d'être patient. Parce que ces chars vont être envoyés par petits paquets. Les Ukrainiens pourraient être tentés de les utiliser au compte-gouttes. Dans la stratégie, il faut patienter. Il faut que tous les chars soient arrivés, que les entraînements aient eu lieu ensemble pour représenter une véritable force et pouvoir ensemble s'attaquer à un objectif bien précis.
D'un point de vue logistique, est-ce que l'armée ukrainienne pourrait faire face à des difficultés?
Alors l'une des difficultés soulevées par le colonel concerne la consommation de carburant de ces chars qui sont très très lourds, qui consomment, ça peut paraître un peu abstrait, mais 2 à 3 litres au kilomètre. et ce, même quand ils ne sont pas en mouvement. À savoir que la technologie est telle à l'intérieur de ces engins que les moteurs doivent tourner en permanence, même lorsque ces chars ne bougent pas, parce que la technologie doit être alimentée pour pouvoir être utilisée efficacement. Un autre point soulevé concerne toujours cette technologie. Il va falloir, avant d'envoyer ces chars, ou en tout cas avant que les Ukrainiens les utilisent, enlever peut-être certaines technologies de très très haut vol qui sont embarquées dans ces engins, parce qu'un jour ou l'autre, certains de ces chars vont tomber aux mains des Russes et il ne faudrait pas que les Russes puissent connaître toutes les subtilités de la technologie embarquée dans ces chars, ce qui voudrait dire que c'est de la technologie otanienne qui serait aux mains des Russes et ça pourrait représenter un certain danger.
Merci beaucoup Frédéric.
Mais de rien, avec plaisir.
En France, le projet de réforme des retraites occupe le haut de l'actualité. Il a été présenté en Conseil des ministres et le gouvernement d'Elisabeth Borne ne fléchit pas, malgré une mobilisation massive de la population la semaine dernière. De nouvelles journées d'action sont prévues, mais rien ne semble pouvoir faire changer le cap d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi ce projet crispe-t-il autant? Quels sont les enjeux? La réforme passera-t-elle l'épreuve de l'Assemblée nationale? Joëlle Mesquens est notre envoyée permanente à Paris. On l'a appelée pour tout comprendre du dossier.
Bonjour Joël.
Bonjour Pierre.
Que se passe-t-il autour de la réforme des retraites en France?
C'est une question évidemment très vaste. Il se passe un grand test à la fois politique, social et parlementaire autour de cette réforme. Un test politique parce que pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'agit de voir s'il est en capacité de réformer malgré le fait qu'il n'a à l'Assemblée nationale maintenant qu'une majorité relative. Un test social aussi puisque pour les syndicats, il s'agit de voir s'ils arrive à faire plier le gouvernement, à le faire reculer ou à tout le moins à amender le projet du gouvernement, et puis un test parlementaire, je l'ai dit, puisque ce sera aussi une épreuve difficile à l'Assemblée nationale où il faudra voir si les troupes d'Emmanuel Macron parviennent à avoir du renfort pour voter cette réforme, le renfort de la droite, ou s'il faudra une nouvelle fois passer par la procédure du passage en force, comme on l'appelle ici, celle du fameux article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote, à condition bien sûr qu'il soit suivi par une motion de censure de l'opposition.
Pour bien comprendre dans quel contexte politique on se place, il y a justement cette question du 49-3, du passage en force dont la première ministre Elisabeth Borne a déjà usé et abusé, diront certains, depuis le début de son mandat. C'est ça qui cristallise aussi les tensions?
Pas seulement, hein. C'est vrai que ça rend le contexte plus difficile, plus électrique depuis effectivement la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. Elle a déjà utilisé 10 fois le 49-3, donc forcément ça n'amène pas de sérénité dans l'hémicycle, même si encore une fois c'est une procédure tout à fait constitutionnelle et tout à fait légale, mais ce fameux article n'a pas bonne réputation. Mais intrinsèquement, réformer les retraites, ça n'a jamais été simple en France. Qu'on se souvienne des grands mouvements sociaux en 1995 à l'époque d'Alain Juppé sous Jacques Chirac, ou d'autres réformes qui ont été faites ensuite sous Sarkozy. Par exemple, ça a toujours été extrêmement compliqué de réformer les retraites en France pour un tas de raisons. Et même déjà sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait déjà tenté de réformer le système de retraite. C'était juste avant la crise sanitaire. Il avait dû finalement abandonner cette réforme qui n'était d'ailleurs pas la même sous prétexte de la crise sanitaire. Mais elle avait donné lieu, cette réforme-là, à beaucoup, beaucoup de contestations aussi à l'époque.
Si on s'attache au factuel, il y a quoi très concrètement dans cette réforme? C'est quoi le plan d'Emmanuel Macron pour les retraites, les pensions des Français?
Eh bien, pour l'instant, en fait, l'âge de départ à la pension en France, c'est 62 ans. Et donc, Emmanuel Macron veut faire passer cet âge de la pension à 64 ans. En campagne électorale, il avait parlé de 65 ans. Donc, il a déjà donné quelque part des biscuits à ceux qui s'opposent à sa réforme. Il a déjà cédé une partie du terrain. Mais il faut savoir que cet âge, c'est quelque part, en fait, une espèce de totem, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Parce qu'en fait, pour avoir une retraite à taux plein en France, il faut bien souvent aller au-delà de 64 ans. Et donc, c'est un peu une réforme en trompe-l'œil, en quelque sorte. Il y a aussi toute la question de la durée de cotisation. Ceux qui ont commencé à travailler tôt vont devoir travailler plus longtemps que d'autres. Et c'est là, évidemment, que se passent les sujets de crispation. Il y a aussi le fait que, en fin de compte, les entreprises utilisent très peu de seniors. Donc, tout ça est un peu, encore une fois, un trompe-l'œil. Il y a un gros problème au niveau de l'emploi des seniors en France, de sous sous occupation de l'emploi des seniors, et le gouvernement donc a envisagé d'obliger les entreprises, ou en tout cas pour l'instant de les inciter, peut-être dans un deuxième temps de les obliger à publier un baromètre de l'emploi des seniors pour les inciter donc à employer davantage de personnel senior.
Si on prend les arguments des uns et des autres, du côté de la majorité, c'est une question de soutenabilité des finances publiques ?
Oui, tout à fait. Du système en tout cas de retraite par répartition qui est menacé évidemment comme partout ailleurs par la question de l'allongement de la durée de la vie. Et il y a ce qu'on appelle en France un conseil d'orientation des retraites. C'est un groupe d'experts en fait qui font des études régulières sur des projections donc pour l'état de santé financière du système. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il y a effectivement à moyen terme, à l'horizon 2030, un déficit qu'il faut combler, mais qui n'est pas non plus catastrophique. Et c'est de là-dessus, en fait, que se cristallisent les oppositions, parce que donc certains disent il y a peut-être moyen d'éponger ce déficit autrement que par cette réforme qui paraît très drastique aux yeux des Français, d'allonger le temps de départ. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure à ce point-là sur le système de répartition. Et d'autre part, Emmanuel Macron a lui-même introduit le doute en parlant, il y a quelques mois, d'un nouveau financement qui parviendrait de cette réforme et qui aiderait à financer tout un tas d'autres choses, l'école, le système de santé, etc. Donc ça introduit le doute dans l'opinion qui commence à se demander si c'est vraiment utile, indispensable au système de retraite ou si c'est pour financer d'autres choses.
Ceux qui n'en veulent pas, ils n'en veulent pas à cause de ça, à cause de ce doute qui a été instillé dans la tête de la population, ou ils ont d'autres arguments ?
Il n'est jamais évidemment facile de prendre des mesures impopulaires. Personne n'a envie de travailler plus longtemps, et je dirais peut-être même moins en France qu'ailleurs, où on note depuis des années, et même ça s'est fortement accéléré ces derniers mois, une évolution du rapport au travail qui est très importante. On note qu'il y a vraiment, on a appelé ça la grande flemme d'ailleurs, il y a des études très approfondies qui ont été faites là-dessus. Donc particulièrement la jeune génération ne considère plus le travail comme une référence, comme autrefois, comme l'alpha et l'oméga de la vie. Donc on veut aussi avoir une vie à côté, et donc évidemment cette réforme des retraites vient s'entrechoquer avec cette volonté-là. Donc on veut d'autant moins travailler plus longtemps, qu'on n'accorde plus autant d'importance qu'avant à la question du travail.
L'opposition à ce projet, elle se matérialise aussi dans la rue. On a vu la semaine dernière une forte mobilisation, et ça risque pas de s'arrêter à ce niveau-là.
Oui, il y a d'ailleurs des enquêtes qui ont été faites sur la prochaine journée de mobilisation, mardi prochain, et selon ces enquêtes, on doit s'attendre à nouveau à une forte mobilisation. L'opposition d'ailleurs à cette réforme des retraites n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines, preuve que le gouvernement a beaucoup de peine à convaincre. Donc la semaine dernière, on a eu entre 1 million et 2 millions selon les chiffres, selon les sources, de manifestants dans la rue. C'est très important, surtout dans le contexte actuel d'inflation record, parce que c'est difficile de faire grève, c'est difficile de se déplacer, surtout quand il n'y a pas de moyens de transport. Et donc on s'attend à une mobilisation très forte qui, effectivement, peut gêner le gouvernement dans ce processus de réforme.
Gêner le gouvernement, c'est un euphémisme, ou il y a vraiment une possibilité que ça fasse changer la vie d'Emmanuel Macron ?
Et il aura du mal à renoncer à cette réforme parce que c'est pour lui un marqueur de son quinquennat. Il n'a pas de majorité absolue, il n'a pas les mains libres pour réformer, il doit toujours trouver des majorités d'occasion. Et donc il ne peut pas apparaître, surtout en début de mandat alors qu'il lui reste 4 ans à présider la France, il ne peut pas apparaître comme ce président immobile qu'a été d'une certaine façon Jacques Chirac, empêché par la cohabitation. Il lui faut malgré tout avoir décroché des totems, des trophées, et cette réforme des retraites en est un pour lui qui se veut transformateur. Vous vous souvenez qu'avant sa campagne électorale de 2017, il avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, donc il avait vraiment l'ambition de transformer la France, et c'est ça qui maintenant est mis à l'épreuve, cette capacité de transformer la France. Maintenant, il faudra voir s'il y parvient, ce ne sera pas forcément une mince affaire.
Au niveau du calendrier, le projet de réforme, il a été présenté en Conseil des ministres, il doit encore passer devant l'Assemblée nationale. Il y a encore combien d'étapes devant lui ?
Alors, il faut savoir que le gouvernement a été assez habile en choisissant une procédure particulière pour faire adopter cette réforme. C'est un peu technique, mais c'est un article spécifique de la Constitution, en fait, qui permet un examen accéléré de la réforme au Parlement, c'est-à-dire qu'il y a 50 jours disponibles à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat pour voter cette réforme. Si au terme de ces 50 jours, il n'y a pas de vote majoritaire, à ce moment-là, le gouvernement peut prendre des ordonnances pour que la réforme soit effective. Donc il y a un balisage assez habile habile dans le sens où il y aura un débat au Parlement, mais qui ne pourra pas être suspendu à une obstruction parlementaire phénoménale de l'opposition qui voudrait à tout prix bloquer le texte en proposant des milliers d'amendements, comme cela s'est déjà vu dans le passé pour d'autres réformes dont l'opposition ne voulait pas.
On l'a dit, Emmanuel Macron, il a une majorité relative, ça veut dire qu'il doit trouver des soutiens au cas par cas. Là, sur ce dossier-là, s'il pourrait se tourner vers quel groupe politique ?
Alors, il s'est déjà tourné vers la droite, mais justement, les choses tournent un peu vinaigre parce qu'il a eu l'accord du nouveau chef de file des Républicains, Éric Ciotti, qui a, moyennant quelques amendements à la réforme, donné quitus pour cette réforme. Donc, il a dit que ses troupes allaient voter. Il y a 62 députés sur 577 à l'Assemblée qui sont de droite. Donc, ça procurerait le renfort suffisant, théoriquement, pour Emmanuel Macron pour faire voter cette réforme. Éric Ciotti a donc topé avec le gouvernement. Et il a marqué son accord. Mais maintenant, une partie de ses troupes se rebelle et n'est pas disposée à voter ce texte. Il y a déjà une quinzaine de députés de droite qui rechignent. Et du coup, sachant qu'en plus, il y a au sein de la majorité macroniste elle-même des doutes qui s'expriment, il n'est plus du tout sûr qu'Emmanuel Macron ait une majorité pour voter ce texte. Il aurait à ce moment-là recours obligé à ce fameux article 49.3 si impopulaire.
Ça veut dire que c'est encore un sujet qui risque de diviser la France. Ça ne va pas se régler dans les 10 jours.
Ah non, très certainement. Les retraites, encore une fois, c'est un sujet qui est très épineux en France et ce ne sera sans doute pas la dernière réforme de ce style dans les années à venir. Vous savez, c'est vraiment un serpent de mer. Déjà, sous Michel Rocard disait « Avec les retraites, il y a moyen de faire exploser n'importe quel gouvernement. » On verra si c'est le cas cette fois-ci, mais en tout cas, c'est sûr, ce n'est pas une réforme anodine.
Le Rassemblement national de Marine Le Pen, il se positionne comment vis-à-vis de cette réforme ?
De façon extrêmement habile, il faut bien le dire. Marine Le Pen et ses troupes sont très opposées à cette réforme des retraites. Elle a longtemps défendu d'ailleurs le retour de la retraite à 60 ans. Mais assez habilement, elle ne s'associe pas aux cortèges syndicaux où elle n'est d'ailleurs pas la bienvenue. Et donc, elle a cet avantage, on va dire, aux yeux de l'opinion publique et aux yeux de son électorat, qui pourrait grossir, d'être à la fois sur une vague très populaire, puisque la majorité de l'opinion française, à 2/3, les Français sont opposés à cette réforme. Donc, elle va dans le sens de l'opinion et en même temps, elle ne va pas dans le sens du désordre. Elle n'incarne pas le chaos, puisqu'elle ne manifeste pas dans la rue, elle ne soutient pas spécialement les grèves syndicales, etc. Et donc, elle apparaît comme à la fois opposée à cette réforme, donc populaire, et en même temps, elle incarne le parti de l'ordre, ce qui lui fait deux atouts. Et au final, il est à craindre qu'effectivement le Rassemblement national soit le grand gagnant de cette séquence de la réforme des retraites.
Merci beaucoup, Joël.
Merci, Pierre.
Des trajets en train silencieux, vous en avez peut-être rêvé, la SNCB l'a fait. La compagnie ferroviaire teste la mise en place de compartiments silencieux. Les voyageurs en seconde classe pourront choisir entre voitures classiques et voitures plus calmes. Le concept existe depuis plus de 20 ans aux Pays-Bas. En Belgique, pour l'instant, seules deux lignes sont concernées. Pour en parler, au téléphone avec nous, Marianne Yernaud, porte-parole de la SNCB.
Bonjour Marianne Yernaud.
Bonjour.
D'où vient cette initiative de zone de silence ? Est-ce que c'est une demande du public ?
Alors en effet, dans nos enquêtes de satisfaction, on a remarqué que le train, c'est vraiment un endroit pour se détendre, c'est vraiment un moment pour soi. Les voyageurs ont vraiment besoin de confort. Et dans les enquêtes qu'on a faites, 7 voyageurs sur 10 se disent favorables à cette nouvelle mesure d'installer des compartiments silence. Il y a même 30% des voyageurs qui disent qu'ils prendraient plus fréquemment le train s'il y avait des zones de silence.
Concrètement, qu'est-ce qu'il sera possible de faire ou de ne pas faire dans ces voitures ?
Alors concrètement, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas payer de supplément pour rentrer dans ces voitures. Il ne faut pas non plus réserver. Ce sont des voitures de seconde classe sur lesquelles on a posé une signalétique tant à l'extérieur du train qu'à l'intérieur du train. Donc c'est facilement reconnaissable. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, on va recommander de ne pas parler à voix haute, de ne pas téléphoner, de limiter aussi le volume de son casque ou de ses écouteurs et puis de mettre son téléphone portable sur surtout en mode silencieux.
Qui s'assurera du respect du silence ? Est-ce que ce sont les contrôleurs ou est-ce que vous comptez sur la bonne volonté de chacun ?
Alors on compte bien sûr sur la bonne volonté de chacun et sur le contrôle social également, puisque quelqu'un qui s'installe en zone silence va peut-être oser plus facilement dire à son voisin, eh bien écoutez, on est en zone silence, est-ce que je peux vous demander de mettre vos écouteurs? Mais on a aussi les accompagnateurs de train qui, quand ils passent, peuvent aussi faire une légère remarque aux personnes qui ne respecteraient pas la nouvelle mesure. Mais c'est vraiment aussi l'objet de ce test. Ce test, il a vraiment deux objectifs. D'une part, de voir si auprès des voyageurs, la mesure est bien accueillie et serait bien respectée. Et d'autre part aussi, de voir si en termes de logistique des trains, de planification des trains, c'est possible de mettre une voiture avec une zone de silence dans plusieurs trains.
Pas d'amende donc pour les voyageurs récalcitrants?
Pour l'instant, on est principalement dans une phase de test. Il n'y a pas d'amende à la clé. Notre but, c'est vraiment de sensibiliser et puis de voir surtout si cette mesure est bien accueillie par nos voyageurs.
Ces voitures silencieuses sont situées en deuxième classe, pourquoi pas en première classe ?
Vu que la plupart des voyageurs s'expriment en faveur de cette mesure dans les premières enquêtes qu'on a faites, eh bien dans le test, on pense que c'est préférable de le laisser accessible à tout le monde, sachant que la première classe est un service particulier avec un supplément également. Et donc ici, vraiment, l'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde et donc en deuxième classe.
Pour l'instant, ces zones de silence sont mises en place dans les trains reliant Eupen à Ostende et Bruxelles à Luxembourg. Est-ce qu'on peut imaginer que le projet se développera dans toute la Belgique s'il fonctionne ?
Alors, on peut imaginer plein de choses, bien sûr, et c'est l'objectif de ce test. Pour l'instant, on fait vraiment ce test sur deux lignes importantes que sont Eupen, Ostende et Bruxelles-Luxembourg. C'est vraiment deux lignes assez chargées sur lesquelles on va pouvoir vraiment avoir de vrais résultats. Et dans l'avenir, on va pouvoir voir si on l'implémente sur toutes les lignes, sur tous les trains, sur certains trains, sur certaines lignes. Et donc, c'est vraiment ce test qui va nous dire comment est-ce qu'on peut gérer ça dans l'avenir.
Marianne Hiernaud, porte-parole de la SNCB. Merci beaucoup.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.